Abordons maintenant l'oratio super oblata, qu'on appelle vulgairement la secrète. C'est une oraison. Et voici ce que dit le canon 35 de l'Ordo Romanus XV, dont le Monseigneur Audrieux situe l'apparition dans le temps entre 750 et 787, soit au cours de la période carolingienne. Voici le texte. Le visage incliné vers le sol, le pontife dit alors l'oraison sur les oblats, de telle sorte que nul, sauf Dieu et lui-même, n'entende, si ce n'est seulement per omnia secula seculorum. Il va de soi, toutefois, que ce texte a été rédigé postérieurement à celui de l'Ordo Romanus Primus, ce qui a ici son importance. Car la lecture du canon 85 de la première directive romaine ne donne aucune information précise ni sur la ritualité, ni même sur l'existence d'une oraison à cet instant de l'action sacrée. Tout au plus y est-il mentionné que le pontife s'incline quelque peu sur la pierre de l'autel, mais est-ce pour prier, et fait signe à la scola d'arrêter son chant. La seule allusion à la présence d'une prière sur les oblats ne peut se déduire que de la mention faite par le canon 87 du per omnia final de l'oraison. Qu'est-ce à dire, sinon qu'en ces temps carolingiens, l'oratio super oblata n'existait pas encore, et que l'offertoire lui-même, avec toutes ses prières, était nul et non avenu. Il faut quand même s'interroger sur la spécificité de la secrète. Une telle imprécision des textes ne peut empêcher de conclure qu'à l'époque de la parution de l'Ordo Romanus Primus, l'oratio super oblata était encore récité alta voce par le célébrant. Mais lorsque le liturgisme contemporain entend déduire cet usage d'une prex eucharistica primitivement récitée, sinon même chantée à haute voix, il dénature l'esprit des institutions liturgiques romaines et le désacralise. C'est ainsi que, sous prétexte d'assurer une meilleure participation des fidèles et de donner vie à un archéologisme de mauvais aloi, le nouveau missel romain a fait de la prière sur les oblats une oraison semblable à la collecte et à la post-communion, alors qu'il répondait à un souci particulier de l'Église. Observons en effet que les trois oraisons de la messe romaine ne possède pas la même visée liturgique. La première, c'est-à-dire la collecta, qui rassemble les demandes de la communauté chrétienne, et la troisième d'entre elles, ad complendum, l'action de grâce après les bienfaits reçus, se définissent comme des orationes super populum parce qu'elles sont adressées à Dieu pour le besoin salutaire des âmes pastorales dont le célébrant est investi. Bien au contraire, l'oratio super oblata, la prière sur les oblats, révèle la dimension d'un discours plus élevé parce qu'elle est strictement inféodée au sacrifice eucharistique qui va s'accomplir. Nous faisons, écrit l'abbé Joly, que le Christ victime est une fois de plus offert par nous, notre oblation actuelle se confondant avec son unique et perpétuelle oblation. C'est une marque, donc, de l'imprégnation du sacré. Peut-on pour autant affirmer que cette oraison sur les oblats s'intègre parfaitement dans la Prex Eucharistica? La question mérite sans aucun doute d'être posée, car d'après la doctrine traditionnelle que l'on pourrait appeler grégorienne, la première prière du canon romain débute par les termes « Te igitur » que le célébrant, désormais debout devant l'autel, adresse à Dieu à voix basse et dans le plus grand des silences. Il est vrai qu'auparavant, la tradition gélasienne, à la fin du Ve siècle, avait écrit avant le réponse sur Sum Corda précédant la préface « Incipit canon actionis ». Ici commence le canon de l'action sacrée. En fait, l'évolution imprimée par la religion médiévale à la liturgie romaine est bien la source de cette instabilité apparente. Il semble qu'aujourd'hui, le caractère sacré qui est imposé à la Prex Eucharistica, donc canon romain, ait affecté l'oraison sur les oblats depuis que l'ère romane a introduit l'institution de l'orate fratres au terme de l'offertoire. Or, paradoxalement, le caractère du sacré, éminemment protégé à l'origine, s'est progressivement délité au cours des siècles, jusqu'à présenter l'aspect lamentable qui est constaté aujourd'hui. Dernière question, la religion romane n'a-t-elle pas tenté en réalité de rendre vie au sacré ?